Un jour, un livre, un auteur. Bonjour Philippe Zonny.
Bonjour Philippe Tubercaz.
Et bonjour Diego Arabal.
Bonjour les deux Philippe.
Bonjour Diego Arabal.
On va plonger avec vous, Philippe Zonny, cette semaine dans l'histoire de France.
Tout à fait, dans l'histoire de France, l'histoire du XXe siècle, l'histoire tragique, hein, du XXe siècle, l'histoire tragique des deux guerres, Première et Deuxième Guerre mondiale du XXe siècle. Et en ces temps où la mémoire demeure plus que jamais un lien par lequel nous devons transmettre aux générations futures l'histoire de notre pays, il me semble important de mettre en lumière deux ouvrages plutôt méconnus, même si l'un d'eux a été écrit par un personnage célèbre. Premier combat, c'est le nom du livre de Jean Moulin aux éditions de Minuit, livre posthume, publié après sa mort, et dont le manuscrit fut enterré par Laure Moulin, la sœur de Jean Moulin, à qui il confia ce manuscrit en 1941, après avoir rejoint le général de Gaulle à Londres. Elle l'enterrera dans un jardin privé jusqu'à la Libération, afin qu'il ne tombe pas aux mains des nazis, selon la volonté de son frère. Le deuxième ouvrage, Nous autres à Vaucois d'André Pézard, publié par l'association Les Amis de Vaucois et de sa région, c'est un ouvrage essentiel parce que c'est le pendant du roman Ceux de 14 de Maurice Genevoix. Dans les deux cas de figure, ce furent deux lettrés, deux intellectuels, tous deux engagés dans la Première Guerre mondiale. Et parler de la bataille de Vaucois, c'est aussi rappeler que cette année, en 2026, c'est le 110e anniversaire de la bataille de Verdun. Est-ce que vous connaissiez ces deux ouvrages, Diego Arabal et Philippe Subercase, Nous autres à Vaucois, de André Pézard, et Premier combat de Jean Moulin, publié aux éditions de Minuit?
Alors, le premier, là, Nous autres à Vaucois, je ne le connaissais pas. Celui de Jean Moulin, vous m'en aviez déjà parlé hors antenne, je crois que c'était au moment d'un repas où vous m'en aviez parlé.
Bon, ça prouve que nos repas sont intéressants quand même.
Ah, bah oui.
Hein, c'est très, très cultivé. Philippe Subercase, vous vous souvenez de ce repas? On était peut-être ensemble de cet ouvrage
Bien
qu'on va
sûr,
présenter
bien sûr.
aujourd'hui donc aux auditrices et aux auditeurs de présence. Alors, on va commencer par Premier combat. Donc, on rappelle, hein, c'est un livre écrit et publié de manière posthume. Et donc, Jean Moulin a écrit, qu'il a confié à sa sœur, pardon, Laure Moulin, publié aux éditions de Minuit. Alors, on rappelle, hein, les éditions de Minuit, ça a une histoire. Les éditions de Minuit, en fait, c'est une maison d'édition créée durant la Seconde Guerre mondiale,
Durant l'occupation.
durant l'occupation. Elle est créée dans la clandestinité. Le premier roman qui est publié, c'est le roman de Vercors. Le silence de la nuit, le silence de
Silence
la
de la
mer,
mer.
pardon, le silence de la mer. Et le silence de la mer, c'est l'histoire, effectivement, de cet officier allemand qui réquisitionne une maison pour y être logé avec un vieil homme et une jeune femme. Tout les sépare, absolument tout les sépare, et on voit petit à petit comment, effectivement, cet homme qui est féru de culture française se rapproche d'eux. Les éditions de Minuit, je voulais le rappeler, c'est ça au départ. Et c'est dans cette maison d'édition, c'est pas neutre, que Premier combat, effectivement, a été publié. Il me semblait important de rappeler l'histoire de cette maison d'édition pour comprendre pourquoi Premier combat, effectivement, il y est publié. Voilà ce que dit la quatrième de couve. Juin 1940, Chartres, submergée par la foule des réfugiés du Nord, s'est simultanément vidée de ses propres habitants. Quelques unités combattantes en retraite la traversent encore, bientôt suivies par les premiers détachements de la Wehrmacht. Resté à peu près seul à son poste, le jeune préfet est convoqué par le vainqueur qui veut le contraindre à signer un document mensonger portant atteinte à l'honneur de l'armée française. Le dramatique récit de Jean Moulin, dont le dépouillement fait la force, ouvre le 17 juin 1940, le grand livre de la résistance. Donc, Premier combat, voilà un livre singulier écrit par Jean Moulin en 1941, qui raconte ce qu'il a vécu au moment de la débâcle. Il est alors préfet à Chartres et va refuser de fuir devant l'avancée allemande, alors même que le ministre de l'Intérieur demande aux affectés spéciaux, ce qu'on appelle les affectés spéciaux, ce sont notamment par exemple les préfets, donc demande aux affectés spéciaux de quitter les lieux. Les affectés spéciaux, hein, c'est ainsi que l'on appelait, que l'on appelle sans doute encore, donc je vous le disais, toutes celles et ceux qui sont nommés à des postes spécifiques, préfet, sous-préfet, secrétaire général, donc de la préfecture, sont des affectés spéciaux. Mais Jean Moulin décide de ne pas abandonner les siens. Les siens, ce sont les Français. Et en ce 17 juin 1940, alors même qu'il n'a encore jamais entendu parler du général de Gaulle, il va accomplir des actes d'héroïsme et de patriotisme connus de très peu de gens. Il va se dresser face aux Allemands lors d'un épisode aussi dramatique que méconnu, dont je vous parlais sur la quatrième de couvre. Il va refuser de signer un papier et d'endosser au nom de la France des crimes qui n'ont jamais été commis par les soldats de l'armée française. Voilà ce qu'il écrit en page 98 de Premier combat, publié aux éditions de Minuit. L'officier allemand s'approche d'un hangar à main droite, au fond de la cour, il ouvre à deux battants. « Voici, me dit-il en se tournant vers moi, voici nos preuves. » Et d'un geste de la main, il montre, aligné côte à côte, 9 pauvres cadavres, tuméfiés, défigurés, informes, dont les vêtements déchirés et maculés permettent à peine de distinguer les sexes. Il y a plusieurs corps d'enfants. Chez 2 ou 3 des victimes, la convulsion des membres indique une agonie douloureuse. Dans ce silence de mort, c'est une bien triste vision. Mais j'en ai tant vu, hélas, depuis un mois. Des paysans tués à côté de leurs chevaux, des réfugiés carbonisés dans la voie de leur voiture, des femmes massacrées avec leurs enfants dans les bras. J'en ai tant vu que je n'ai pas grand-peine à maîtriser mon émotion. Le nazi. Voici ce qu'on fait, vous bons nègres. Et il me fait remarquer que ces cadavres sont bien ceux de femmes et d'enfants. Moi, je ne conteste pas ce dernier point. Dans ces conditions, dit le nazi, j'espère que vous ne ferez plus de difficultés à signer le protocole. Moi, de 2 choses l'une. Ou votre bonne foi a été surprise, où c'est une effroyable mise en scène. Il ne faut pas être grand clerc pour voir que ces malheureux dont le corps est criblé d'éclats sont simplement victimes des bombardements. Hélas, j'ai trop parlé, trop bien découvert leur jeu macabre. Alors, avec des regards chargés de tout ce qu'un être humain peut contenir de haine, ils se jettent sur moi et à plusieurs reprises, leurs poings s'abattent sur ma tête, sur mes épaules, sur ma poitrine. Le soldat qui était un peu à l'écart accourt, la crosse en avant pour participer à la bagarre, mais on l'arrête d'un geste. Il convient pour l'instant de ne pas trop m'abîmer. Un genou et un bras à terre, j'essaie de reprendre des forces qui m'abandonnent de plus en plus. Je me relève enfin pour m'asseoir sur une caisse. On me laisse faire. Sans doute ai-je l'air assez abattu. Mais bientôt, il s'approche à nouveau et m'invite à les suivre jusqu'à une espèce de petit bâtiment bas dont ils ouvrent la porte toute grande. « Vous voyez, me dit alors mon bourreau numéro 1, ceci est le tronc d'une femme dont les membres ont été coupés par les Noirs. » Je vois en effet à l'intérieur étendue sur une sorte de tréteau qui tient à peu près tout le réduit, une chose qui avait dû être un corps de femme, une chose horrible, à moitié nue, avec une chemise que le sang a plaquée par endroits sur la chair et qui laisse apparaître dans le bras 2 énormes plaques rondes où le sang s'est figé, la section des jambes tranchée au haut des cuisses. Plus de bras non plus. À leur place, 2 moignons sanguignolants. Quant à la tête, ce n'est plus qu'une boule informe où le sang a collé les cheveux partout et qui pend lamentablement. Est-ce que le bombardement ricane un de mes bourreaux qui a si bien tranché ses membres ? Et me saisissant par les épaules, il me jette violemment sur le cadavre mutilé. La porte se remet ferme sur moi vivement. J'ai été projeté sur ce débris humain et son contact froid et gluant m'a glacé jusqu'aux os. Dans l'obscurité du réduit, avec cette odeur fade de cadavre qui me prend aux narines, j'ai comme un frisson de fièvre. Alors je sens que je ne pourrai pas résister. J'essaie d'ouvrir la porte, en vain. Combien de temps restais-je ainsi affalé à attendre qu'on m'arrache à cette présence macabre ? 10 minutes ? 1 demi-heure ? Je ne sais pas. Mais quand je sors enfin, la nuit commence à tomber. On ne m'a délivré que pour me présenter le papier, l'ignoble papier. J'ai encore la force de refuser. Pendant que je me débats ainsi au milieu de la cour, le grand nazi lève le poing sur moi. Pour éviter ce bras qui va retomber, je m'écarte et cours vers la porte ouverte. 3 coups de feu résonnent coup à coup à mes oreilles. Je ne suis point touché, mais je m'effondre, incapable de faire un pas de plus. Je n'ai qu'à parcourir que quelques mètres. Je n'ai plus la force. Les 2 officiers rentrent alors leurs revolvers. Le grand prend la laisse de son chien, avec l'aide du soldat, m'attache solidement les mains derrière le dos. On me traîne jusqu'à la voiture où l'on me jette sur la banquette arrière. Le soldat monte à mes côtés. Nous rentrons à Chartres. Pendant le trajet, le soldat saisit la laisse qui me sert de menotte et prend un plaisir sadique à resserrer l'étreinte chaque fois qu'un chaos m'arrache un soupir. Nous voici de retour place des Éparts. La nuit est tombée. La voiture stoppe devant l'hôtel de France. Un des officiers entre dans l'établissement et revient un peu après. Au moment où la voiture démarre, j'aperçois à 3 mètres de nous, dans la lueur de la porte de l'hôtel, un civil que je reconnais bien vite. C'est Vidon. Je l'appelle et lui crie que je suis arrêté. Un vigoureux coup de poing s'abat sur ma mâchoire, suivi de plusieurs coups de crosse dans les jambes. Les officiers pestent après moi. La voiture fait le tour de la place pour aller se ranger devant la maison où j'ai eu mes premiers contacts avec mes bourreaux. Les officiers pénètrent dans l'immeuble et me laissent dans l'auto à la garde du soldat. Au bout d'un quart d'heure environ, on vient me chercher pour m'introduire dans la première pièce de droite. Dans cette pièce, éclairée maintenant par des bougies, je trouve un officier qui n'est pas celui que nous avons laissé tout à l'heure. Il est plus âgé sans doute, d'un grade plus élevé. Malgré l'état dans lequel je suis, j'essaie de protester auprès de cet officier contre les traitements dont j'ai été l'objet. J'invoque mon uniforme sali et ma lèvre tuméfiée, ma main gauche en sang. Il ne veut rien entendre et dans un mauvais français se borne à répéter « Vous devez signer !» Je ne réponds pas. L'officier se revoit avec mon bourreau numéro 2, laissant avec moi son camarade et le soldat. Sur un signe de son supérieur, le soldat vient délier la laisse qui en serre mes mains. Mon bourreau numéro 1 sort une fois de plus de sa serviette le protocole, l'étale sur la table et me dit « Pourquoi cette résistance inutile ? Nous savons très bien que nous vous ferons signer. Je vous laisse réfléchir. » Je ne dis rien, à quoi bon, il sort. Le soldat qui est resté avec moi me fait vite comprendre que je ne dois ni m'asseoir ni m'éloigner de la table. Il frappe régulièrement le plancher avec la crosse de son fusil pour me rappeler qu'à la moindre défaillance, il aura la joie de m'écraser les pieds. Nous ne disons rien, ni l'un ni l'autre. De temps en temps, quand nos regards se croisent, il me montre d'un doigt impératif l'odieux protocole. Le temps passe, je souffre affreusement et je me demande comment j'arrive à tenir encore. Enfin, mes bourreaux apparaissent, jettent un coup d'œil sur la feuille et font signe aux soldats de m'emmener. La voiture est toujours là, tout phare éteint. Nous montons. Où va-t-on encore me transporter ? Jean Moulin va ensuite rencontrer un officier qui, lui, va trouver scandaleux le fait, effectivement, de l'avoir torturé, qui va engueuler l'ensemble des personnes, effectivement, qui lui ont fait ça, et qui vont décider de le libérer. Mais à aucun moment, Jean Moulin ne va accepter de signer sur protocole pour reconnaître que l'armée française, que les soldats noirs de l'armée française ont pu commettre, effectivement, ce massacre. On en parle aujourd'hui ici parce que Premier combat, ce livre de Jean Moulin, publié aux éditions de Minuit avec une préface du général de Gaulle, c'est le premier acte de résistance de Jean Moulin en France. Voilà. On pense souvent à Jean Moulin qui est parti à Londres, qui a essayé d'unifier donc la résistance.
Le monde de résistance.
Voilà, qui a été arrêté à Lyon, torturé donc par l'allemand, j'ai oublié son nom,
Klaus Barbie.
Merci Nico Rabal, et qui, d'après les renseignements que l'on aurait, meurt en étant transféré en Allemagne dans un train, donc en 1944. Ce qu'on ignore, c'est cette partie-là de la vie de Jean Moulin, premier acte de résistance. Il désobéit, il refuse en tant qu'affecté spécial de partir à l'arrière, et donc contrevient à l'ordre donné par le ministre de l'Intérieur pour rester effectivement avec la population, pour accueillir les Allemands, pour essayer de faire en sorte de sauvegarder les Français. Et il le dira effectivement dans son livre qu'il a vu énormément de civils avoir des actes de résistance et effectivement, ben, quelque part, assurer cette dignité effectivement que la France se devait d'avoir. Voilà, je voulais vraiment vous conseillez ce livre, Jean Moulin, Premier combat, préface du général de Gaulle aux éditions du Minuit. Hein, je le rappelle, à l'époque, il était préfet à Chartres, donc dans le département de l'Eure-et-Loir. Hein, Jean Moulin était préfet à Chartres dans le département de l'Eure-et-Loir. Il est nommé le 21 janvier 1939 à Chartres, soit quelques mois avant le début, effectivement, de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et je pense que c'était important de citer ça, et je voudrais vous dire les derniers mots de Jean Moulin dans son livre qui sont extrêmement touchants et qui montrent les deux premiers actes de résistance de cet homme. Donc on est le 14 novembre 1940. Des mois ont passé sans que jamais un officier allemand fasse allusion à ma mésaventure. Aujourd'hui, je suis reçu au siège de la Feldkommandantur dans le grand immeuble des travailleurs français. Dès l'entrée, les fonctionnaires présentent les armes. Les officiers saluent à 6 pas. Discours du Feldkommandant, le major Reb Meyer, traduit par le lieutenant Zeitler, et se terminant par ces mots, à l'adresse de Jean Moulin. Je vous félicite de l'énergie avec laquelle vous avez su défendre les intérêts de vos administrés et l'honneur de votre pays. Voilà la phrase prononcée par cet officier allemand. Premier combat de Jean Moulin. Hein, c'est vraiment aux éditions de Minuit, vraiment un livre à lire. Vous avez appris une petite partie donc, avec des discours qui ont été prononcés. Mais la partie qui fait très exactement 111 pages a été écrite de la main même de Jean Moulin durant la Seconde Guerre mondiale, je le rappelle, livre confié donc à sa sœur Laure Moulin, qu'il enterra pour que jamais effectivement les Allemands ne puissent détruire cette preuve de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est quand même un événement méconnu. Hein, on apprend à l'école Jean Moulin, mais moi je n'avais jamais entendu parler, donc avant une émission de France Culture, sur ce livre, Premier combat de Jean Moulin, aux éditions de Minuit. Je vous le recommande vraiment, Diego Arabal et Philippe Subercas, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Très bon, très bon récit, oui. Oui, ça m'a coupé la voix.
Ça vous a coupé la voix, Diego Arabal.
Oui, non, c'est sûr, c'est incroyable. Ça. Et puis, vous nous faites découvrir comme ça des pépites, Philippe Noli. On apprend à l'école souvent. On a des livres, Marcel Pagnol et tout ça. C'est vraiment, pour moi, un livre qui devrait être étudié à l'école.
Mais surtout dans le contexte, vous savez, actuel, on sait que la guerre est revenue en Europe. On sait la menace, effectivement, aujourd'hui, hein, on en entend parler les uns et les autres, les unes et les autres, effectivement, sur toutes les ondes, hein, de la menace hein, que fait peser aujourd'hui donc, la Russie sur l'Europe et donc indirectement également sur la France. Hein, on a entendu les discours hein, des chefs d'état-major français, anglais, etc., sur le risque d'une guerre avec la Russie donc, en 2030, ce qui est forcément... Personne ne la souhaite. Et je trouve que dans ce contexte, de reparler de Jean Moulin, premier combat, bon, qui était préfet, hein, qui aurait pu dire « Bon, mais ok, je vais me coucher, je vais ouvrir aux ordres, je vais partir donc à l'arrière, vers Bordeaux, je vais rester tranquillement, je vais passer la guerre. » Non, premier acte de résistance, il désobéit, il reste, il sert sa population. Et second acte, il dit non, jamais je ne signerai un... Et pourtant, il est... On ne peut pas parler autrement que de torture, hein, d'être frappé pour obtenir quelque chose de quelqu'un. C'est purement, effectivement et simplement de la torture. Et ça, il le raconte pour dire comment c'est le premier acte de résistance, le deuxième acte de résistance qu'il aura. Quoi. La désobéissance a été un acte de résistance, mais le fait de refuser de signer un papier qui aura entaché l'honneur de l'armée française en faisant porter aux soldats noirs de l'armée française le fait d'avoir tué des femmes et des enfants, pour lui, c'était insupportable. Et je trouve que voilà, c'est bien de le mettre en lumière, sur présence d'un jour un livre en auteur, parce que c'est quand même un livre qui...
C'est l'histoire de ce livre.
C'est l'histoire. Ouais. Je vous dis pas que c'est drôle, hein. C'est pas un livre où vous allez rigoler tout, mais ça parle de l'histoire de notre pays, d'un des hommes qui est quand même emblématique. Hein. Je rappelle que Jean Moulin est quand même rentré donc, au Panthéon, hein, sur ce magnifique discours, hein, vous vous rappelez d'André Malraux, hein, où il avait dit « Entre ici, Jean Moulin », enfin on se rappelle de ses paroles extraordinaires. Mais, premier combat, ce livre écrit de la même de Jean Moulin, voilà, est quand même resté inconnu pendant des années. Alors pourquoi il est ressorti il y a quelques mois ? On pouvait le trouver, mais je veux dire, personne n'en parlait. Pourquoi on en a parlé là et pas à un autre moment ? C'est une bonne question.
Et vous n'avez pas la réponse.
Et je n'ai pas forcément la réponse. Je veux dire, pourquoi on en a plus parlé aujourd'hui? Pourquoi on ne l'a jamais appris à l'école oui. Quand on... Moi, j'aurais été ravi de travailler sur ce livre à l'école.
C'est ce que je vous dis. On apprend des ouvrages et celui-là, vraiment, il devrait être dans les manuels d'histoire et à faire lire aux gens. Quoi.
Aux gens, aux jeunes, dans les lycées, dans les collèges, voilà, parce que c'est quand même l'histoire d'un homme qui, à un moment donné, se dresse face à l'occupant. Puis je vous lisais la dernière phrase hein, de l'officier allemand qui le remercie d'avoir donc sauvegardé l'honneur de son pays. C'est-à-dire l'officier allemand reconnaissait que, quelque part, implicitement, il avait été torturé, mais malgré le fait qu'il était torturé, il avait refusé, effectivement, de céder, effectivement, sous la violence.
Hein. Ouais.
Donc, très beau livre. Deuxième livre dont je voulais vous parler,
Peut-être on fait ça la semaine prochaine.
Ou on fait ça la semaine prochaine, allez, Philippe Subercase. Oui, ouais, que, c'est vrai, ouais.
Parce que comme je vous sais bavard.
Non, je suis un grand timide qui s'ignore.
Et que je sens que la chronique va durer à peu près 2 heures et que nous n'avons pas ces 2 heures.
On fera 3 chroniques alors.
Voilà.
Allez, à la semaine prochaine.
On se donne rendez-vous
à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et vous pouvez déjà peut-être nous dire, donner l'eau à la bouche, on parlera de quoi donc ?
Alors, on parlera d'André Pézard, qui est un universitaire et qui, durant la Première Guerre mondiale, donc, a combattu à Vaucois comme lieutenant. Et Vaucois, c'est très peu connu.
Oui, j'allais vous demander où c'est.
Voilà, et bien on en parlera la semaine prochaine. Ben, voilà. Je vous dirai la semaine prochaine.
Et ben, on vous dira ça la semaine
Allez,
prochaine.
Allez, voilà. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.